Bonjour à tous et bienvenue à notre émission de dimanche et aussi à la rediffusion de mardi soir. Je suis bien entouré aujourd'hui parce que j'ai mon invité Vanessa Benzerga, qui est comédienne, metteur en scène, écrit des pièces. Et je suis aussi avec Charlotte Frolic, qui est chroniqueuse à CFM Radio, que je choisis expressément et aussi avec un petit mélange de hasard, parce que depuis longtemps que je voulais que Charlotte puisse m'accompagner à une émission pour une invitée. Et aujourd'hui, ça tombait juste parce que toi, Vanessa, tu as une voix qui est assez fine et je voulais une voix féminine qui soit assez. Et c'est ta beauté veloutée, rock qui a Charlotte. Voilà, c'est la raison pour laquelle ça tombe bien que Charlotte soit là. Bonjour, Vanessa.
Bonjour, Azende.
Bonjour, Charlotte.
Bonjour, Charlotte.
Vous voyez, t'écoutes, ça va. Bien, donc, je disais, Vanessa, que tu es comédienne. Et tu fais du théâtre, tu écris des pièces, tu fais pas mal de choses. Ouais. Et comment ça se fait que tu es tombée dans cette, disons, profession parfois risquée, qui est la mise en scène, le théâtre, l'écriture?
Alors en fait, tout a commencé quand j'étais toute petite.
Oui.
J'ai en fait, c'est ma grand-mère qui me chantait tout le temps cette chanson qui est comédien, comédienne. Et en fait, j'ai toujours joué la comédie depuis toute petite en fait. Et un jour, enfin, je continue mes études en bio, je fais de la biologie. Et un jour, je me suis dit non, faut que j'arrête. Enfin, surtout, j'ai eu un, enfin, il y avait un club de théâtre dans un bahut où j'étais à l'époque au lycée. Et je me suis dit bon, je vais aller faire un tour voir ce que c'est, parce que je touchais plein de choses. Je fais un peu de photos, j'avais fait à l'époque un peu de peinture, un peu enfin plein de choses différentes. Et je me suis dit tiens, pourquoi pas le théâtre, puisque mamie me disait toujours comédien, comédienne. Alors du coup, je me suis dit bon, allez, on va se lancer, on va essayer. Et en fait, je suis tombée sur un professeur qui s'appelle Christine Thiebaud. Et en fait, elle est professeure de français et elle donnait des cours, donc elle avait ouvert un petit club de théâtre. Et donc je suis allée. Et là, je me suis aperçue que c'était génial, quoi. On pouvait faire des choses avec notre corps, on pouvait créer, on pouvait changer de voix, on pouvait être un autre personnage. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Et grâce à cette femme, en fait, on a rencontré des gens. On a rencontré des gens qui sortaient du cours Florent, qui étaient au conservatoire. Et là, je me suis dit, ouais, pourquoi pas moi, quoi.
Vanessa, tu étais à ce moment-là en Picardie.
J'étais en Picardie, ouais.
Picardie, oui, parce que tu es née à Senlis, dans l'Oise.
C'est ça, ouais. Oui.
Et quand tu dis que tu as découvert cette prof Christine, et tu avais quel âge?
J'avais 17, 18 ans.
Bon, mais tu n'étais pas trop petite quand même.
Non, je n'étais pas trop petite. Oui. Mais bon, j'étais. Ouais, non, j'étais pas trop petite.
Oui, oui. Et donc, c'est plutôt les contacts avec ta grand-mère, quand tu chantais cette chanson comédienne, que tu as dit, bon, mais pourquoi pas, tout ça. Mais tout semble indiquer que c'était ton père plutôt qui voulait t'empêcher de suivre une voix.
Tu crois?
Mais que ce n'était pas le théâtre, c'était plutôt. Jockey d'obstacles, que c'était la profession de ton père et il voulait surtout pas t'apprendre à monter au cheval.
Non, en fait, ouais, papa était jockey d'obstacles et en fait, il voulait absolument pas que sa fille, sa petite princesse, en fait, fasse du cheval, monte sur un cheval et les pieds dans la gadoue et dans le fumier, quoi. Oui. Et c'est vrai que c'est un métier très très difficile. Hein. Il y a beaucoup de chutes. Enfin, ça reste quand même du sport à haut niveau. Donc et puis le cheval c'est très très dangereux. Faut pas croire qu'un cheval voilà ça se monte comme ça et non même un petit poney, un Shetland, c'est super dangereux quoi.
Hors antenne, on parlait avec toi et avec Charlotte sur le monde du cheval un petit peu, non? Parce que moi, je suis ignare et Charlotte, je crois aussi, n'est-ce pas, Charlotte?
Je connais rien du tout au domaine de la course de cheval et tout ça. C'est sûr que
oui, c'est quand on n'est pas né dedans. Je connais pas quoi. Enfin, c'est un peu comme plein de professions. Si on n'est pas baigné dedans depuis tout petit, on connaît pas quoi.
Mais puisque tu étais la petite princesse, alors
oui,
parce que c'est comme tu étais considérée. Tu étais fille unique. Tu es fille unique.
Alors, en fait, je ne suis plus fille unique. J'ai été pendant 17 ans en fait. Mm-hmm. Maman m'a fait un petit frère 17 ans après.
Oui.
Et c'était très difficile d'ailleurs parce que j'étais plus justement la petite princesse à papa. Donc c'était très dur. Ouais.
Donc C'était difficile d'imaginer une petite princesse qui monte à cheval et voilà. Qui tombe à chaque fois. Et qui,
voilà, qui pourrait se faire mal, se casser une clavicule. Parce que papa a eu beaucoup d'accidents. Il a eu énormément de fractures. Donc du coup, puis jockey d'obstacles, c'est très très dangereux, quoi.
Oui. Et Charlotte, je crois que tu voulais poser une question par rapport à ses origines, il me semble, n'est-ce pas Charlotte?
Mais oui, ton nom de famille, tu nous disais justement qu'il y avait une histoire autour de ça et je trouvais intéressant, est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, bien sûr. Alors, en fait, je m'appelle Ben Zerga et mes origines sont algériennes. Mon nom veut dire fils de bleu, Zerga, bleu, et Ben, fils. Et en fait, je descends des Touaregs, des hommes bleus du désert. Voilà. Et je suis Cardoron, puisque papa est métisse, en fait. Enfin, je sais pas si on dit métisse. Est à moitié algérien, à moitié français, puisque mamie est française. Et voilà, quoi. Et je pense que papa a fait jockey, parce que toute la famille en Algérie a des chevaux, des purs sangs. Donc, je pense que c'est inné et c'est génétique, quoi. Papa n'est pas devenu jockey pour rien, quoi.
mais en fin de compte, tout le monde est métisse, non? Quelque part,
oui,
je veux dire,
sûr.
Oui.
Oui.
Par
oui.
exemple, si je reviens à Charlotte, Charlotte vient d'un peu là-haut, l'Alsace, n'est-ce pas, Charlotte?
La Lorraine,
ah,
en
la
fait.
Lorraine,
ouais,
pardon.
Oui. Ça a été annexé, voilà.
Oui, déjà, ton nom de famille, français. Frelig, je ne sais pas si je le prononce bien.
Ça, on dit Frelig, mais après, l'écriture a changé, on peut mettre des trémas, ou je sais qu'à partir d'un moment, ils ont changé le CH qui était à la fin, où c'était Frelich, qui veut dire joie, je crois, quelque chose comme ça. Et ils l'ont francisé en mettant un G, alors je trouve pas que ça soit plus vraiment une consonance très française, mais bon, voilà, en tout cas, c'était pour changer le nom de base.
Et Charlotte, il me semble que toi aussi, tu as fait un passage pour le monde du théâtre, n'est-ce pas?
Alors oui, c'est marrant, et du coup, que tu m'as invité aujourd'hui. Quand j'étais aussi jeune, on avait un atelier de théâtre, je crois, après les cours, donc c'était de 4h à 6h, quelque chose comme ça. Et on s'est éclaté vraiment à jouer des rôles. On a joué des rôles de clochard. Enfin, on avait une petite équipe de gamins de l'école et c'était très très agréable de faire ça. Voilà, ça nous permettait de s'imaginer des mondes ou des personnages qui n'étaient pas nos propres personnes. Voilà.
Donc, Charlotte, je fais une petite parenthèse ici avec l'entretien de mon invité Vanessa Benzerga, parce que peut-être que je n'aurai pas l'occasion de dédier une émission au personnel des FM, parce que j'ai toujours le reporté, je disais, bon, ça va se faire. Bon, je profite de ces minutes.
Mais je t'en prie, vas-y.
Charlotte, donc, quand tu as choisi de devenir chroniqueuse ici à CFM, c'était déjà pour jouer la comédie, le théâtre, jouer avec la voix, qu'est-ce qui t'a motivé?
Ben, c'est vrai qu'il y avait un lien avec ça, parce que il y a quelques mois, j'ai perdu ma voix. Je pouvais plus parler. Enfin, j'étais un peu aphone, voilà. Et j'avais des nodules sur les cordes vocales. Donc, je me suis dit, il faut que je travaille cette voix, il faut que je m'apaise, parce que j'étais très stressée. Je sortais des études, j'avais plus vraiment d'échappatoire. Je savais plus où aller, quoi. Donc, j'ai perdu ma voix, et je pense que le fait de reprendre des projets, de travailler ma voix, de travailler aussi la synthèse, c'est ça qui m'intéressait aussi, la radio. Bah, ça m'a redonné un peu confiance en moi et ma voix va mieux. Donc c'est un peu la voix, c'est un peu la couleur de l'âme, quoi. C'est un peu.
Donc avant cette expérience une période où tu pouvais pas parler, tu avais toujours une voix rock, veloutée, comme tu l'as maintenant, ou ça a changé un peu?
Je pense qu'elle a changé à cause de ces nodules là, quand
enfin,
même.
Grâce
un petit peu.
À ces nodules alors.
Ou alors grâce, ouais. Mais c'est pas toujours bien parce que justement, c'est comme au théâtre, il faut travailler le souffle, la respiration. C'est hyper important, sinon on peut pas apporter une voix. Donc, mais c'est vrai que quand j'étais gamine, j'avais une voix déjà un peu rauque, ouais. Mais pas avec des grains comme des nodules, pas tout à fait comme ça.
Revenons donc au théâtre, Vanessa, et à 17 ans, nous sommes restés là. Et qu'est-ce que tu as fait après?
Eh ben après, j'ai continué mes études parce qu'en fait, mes parents voulaient absolument que je continue mes études. Donc, j'ai continué dans la biologie. Bon, j'ai eu un parcours assez chaotique hein, parce que je suis passée par un BEP, un CAP. Enfin, l'école ne voulait absolument pas de moi.
Et toi non plus?
Mais moi non plus, d'ailleurs. Mais il fallait que je continue. parce que mes parents voulaient absolument que j'aie des diplômes et que j'aie quelque chose de concret dans les mains si jamais je voulais faire quelque chose d'autre, quoi. Donc du coup, je suis allée jusqu'à la fac, d'ailleurs un peu le sabbatier, parce que je suis redescendue après sur Toulouse pour vivre. J'ai eu ma première année de fac en bio. Et là, j'ai dit à mes parents, non, c'est bon, j'arrête, j'en peux plus.
Biologie, tu veux dire, non ?
Oui, en bio, biologie, oui. Pardon. Oui. SVT, en fait. Sciences de la vie et de la terre. Et j'ai dit à mes parents, c'est bon, j'arrête. Je remonte à Paris, je fais les cours Florent et je sais que, enfin, voilà, je veux faire absolument du théâtre. Je fais rire tout le monde, enfin, et puis j'ai envie, quoi. J'ai envie de m'exprimer, j'ai pas envie de rester dans un laboratoire toute ma vie à analyser des urines, des selles le matin à 8h. Non, c'était pas possible. Il fallait que je fasse autre chose.
Pardon, excuse-moi. Ta grand-mère, du coup, qui disait comédien, comédienne, elle savait déjà que t'avais déjà ce petit grain de...
Oui, oui.
De ouais. Théâtreuse, disons.
Ouais, ouais, ma grand-mère me disait, voilà, il faut faire ça, quoi. Tu peux pas faire autre chose. Tu peux pas faire autre chose, ouais, que du théâtre.
Donc, pour ta grand-mère, la décision de prendre le métier ou la pratique de comédienne, c'était quelque chose de concret, contrairement à tes parents, que l'art, ouais, c'était pas de concret.
Si, mes parents aussi, c'était du concret, mais ils voulaient vraiment que j'aie... Parce que mon père, par exemple, comme il était jockey, il savait ce que c'était. Demain, on tombe, on se fait mal, on se blesse, on n'a plus de contrat. C'est un peu comme un artiste, en fait, être jockey. C'est pareil, il y a des gens qui viennent vers vous, qui vous donnent des contrats, qui vous donnent un contrat, qui vous donnent un cheval pour une course. Et demain, si vous êtes cassé, si vous avez le moindre problème physique, c'est fini. Ou si une personne vous déteste ou quoi que ce soit. Après, voilà, il y a une espèce de concurrence toujours très difficile, quoi. Et mon père voulait pas que... Enfin, il m'a jamais interdit de le faire. Mais il savait que c'était compliqué. Donc, il voulait vraiment que j'aie quelque chose où, voilà, je suis posée, j'ai mon petit salaire à la fin du mois, que je fasse un truc, voilà, où je me prenne pas la tête, quoi. Et en fait, non, je pense que j'aime bien, justement, aller vers la difficulté, le doute, l'angoisse, la frustration. Enfin, c'est génial, quoi.
Je suppose que des amis aussi t'ont encouragé ou quelques rencontres autres que Christina Thibault, que c'était ta première rencontre, disons, capitale pour le ouais. théâtre et aussi ton professeur de français. Mais il y a eu aussi un entourage qui...
Oui, bien sûr.
Oui.
Mes amis, tout ça, oui, bien sûr.
Mais je vais citer un nom que peut-être ça va te dire beaucoup, parce que ça a été aussi important pour ton parcours. C'était Ariane Mnouchkine. Je ne sais pas si je le prononce bien.
Ariane Mnouchkine, oui. Mnouchkine. Alors, Ariane Mnouchkine, en fait, je l'ai rencontrée... Enfin, je n'ai pas rencontré Ariane Mnouchkine. J'ai rencontré les gens qui travaillaient avec elle. Parce que c'est très compliqué de rencontrer...
Au Théâtre du Soleil.
Au Théâtre du Soleil, ouais, à la cartoucherie. En fait, j'ai participé à un... Enfin, j'étais bénévole pour un festival, et justement à la cartoucherie. Et là, j'ai rencontré des gens extraordinaires, quoi. Qui viennent de tout pays, mais qui ont la même passion, le théâtre. À travers cette passion, en fait, on peut parler de tout, n'importe quoi. On peut ne pas avoir le même langage et en fait se comprendre. Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et il y a vraiment un partage, enfin, de plein de choses, d'écriture, de gestuelle, enfin, c'était extraordinaire.
Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. Personne t'aime. Ah ouais, je me disais bien. On m'appelle pas, on m'invite pas dans les soirées. Watchy watcha, je dois pas sentir comme il faudrait. L'argent et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Ah 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 ah. J'ai pris ma tenue de combat. Avec ça vous ne ferez pas le poids. J'ai payé quand même un peu cher pour un truc qui laisse dans la galère. Mais personne m'a encore dit oui. On t'a bla bla bla, si ça nous plaît. Ouais ouais c'est ça, je dois pas sentir comme il faudrait. Le money et le succès, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe, et ça me vexe. Dans les soirées, ouais, ben tant pis pour toi. Ah, 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 ah.
C'était Mademoiselle K, ça me vexe. Et en fait, c'est une chanson qui reflète bien le milieu du théâtre et du cinéma, tout ça, enfin de la musique. Parce qu'en fait, c'est vrai, c'est oh oui, c'était génial. Écoutez, je vous rappellerai. J'ai beaucoup aimé votre truc. Et puis en fait, t'as jamais d'appel, t'as aucune lettre, t'as rien, aucune réponse, même pas pour qu'on, enfin, même pas une lettre de refus en te disant c'était nul, arrêtez ou je sais pas, ou changez ce que votre truc, faites-le comme ça. Non, on a aucune réponse, on a rien. Et en fait, faut vraiment essayer d'y arriver par soi-même, quoi. C'est pour ça que j'écris aussi.
Ça te vexe, donc tu as ouais. souffert cette expérience.
Oui, beaucoup, ouais. En plus, j'ai pas un physique de top modèle. Et non, mais tu rigoles, mais à Paris, en fait, donc j'ai fait les agences de pub, de casting, les agents. Mais à chaque fois, j'avais toujours le même truc. C'était donc dès que je montrais mon book, c'était vous êtes mannequin comédienne. Ben non, je suis que comédienne. Bon, merci, au revoir. Suivant. Et en fait, tu te retrouves sur le carreau parce que t'es pas mannequin. Tu te retrouves aussi à des castings où t'as l'agence Success ou Elite, tu vois, à côté de toi. Donc des nanas qui font 1m85, 90. Et toi, t'es à côté, assise avec ton 1m60. Et là, tu dis, mais c'est un casting pour des photos. Excusez-moi, les filles, c'est pour le théâtre ou c'est qu'est-ce que c'est? Et en fait, tu passes le casting et puis à la fin, limite, tout le monde te regarde avec des yeux énormes, en disant, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle s'est perdue ou quoi?
C'est pas évident. Là, on subit deux critiques. La critique d'écrivain, enfin, d'écrire des pièces et de jouer et en plus physique.
Ah ouais, complètement, ouais.
Mais j'invite les auditeurs à qu'ils puissent voir les photos qui apparaissent déjà dans notre site de CFM et vous pourrez apprécier et déguster la beauté de Vanessa.
Ah,
parce que, et quand Vanessa dit, je n'ai pas les physiques de top modèle, en réalité, c'est que tu veux dire que tu n'as pas la taille de ton modèle, parce que en mètres, voilà, parce que sinon les gens vont croire
que
tu es difforme, tu es très très moche, mais c'est pas le cas. C'est pour cela que c'est en mètres 1m60 de beauté qu'il faut l'apprécier. Vous allez les voir sur le site. Charlotte,
oui. Tu
voulais questionner.
Ah oui, alors c'est vrai que on connaît très bien de nom les cours Florent.
Ouais.
Et finalement, qu'est-ce qu'on y fait dans les cours Florent?
Alors, bon, je vais pas être très méchante non plus, parce que bon, ok. Alors, les cours Florent. Moi, j'avais rencontré, donc, à la suite de Catherine Thiébaud à Compiègne, j'avais rencontré des gens qui étaient sortis des cours Florent. À l'époque, c'était un cours où il y avait 1500 élèves. Ensuite, sur Canal, ils ont passé un petit documentaire sur justement les cours Florent. Et là, ça a explosé, quoi. L'année où j'ai voulu aller au cours Florent, il y avait 5000 élèves.
100 000 ?
5000.
5000.
Ouais. Oui. 100 000.
C'est après vous.
Ouais, non, 5000. Et 4 fois plus, quoi. Et en fait, moi, quand j'y suis allée, c'était ça. C'était explosion. C'était 9 heures de cours par semaine, 300 euros par mois. avec 32 élèves par classe. Voilà, on se jetait sur le plateau pour jouer une scène. Un professeur pas forcément compétent non plus, qui ne savait pas ce que c'était qu'un comédien. Enfin, pas tous, mais celui que j'avais eu à l'époque, Sébastien Lipsard, ne savait pas ce qu'était un comédien.
Ils sont pas tous des comédiens.
Si, si, ils sont comédiens, mais je veux dire, ils n'ont pas travaillé en fait sur des méthodes pour justement que le corps parle. Voilà, on était des bouches qui parlent, et c'est tout. Ouais, alors que le théâtre, c'est pas ça du tout. Moi, j'ai eu un Jérôme Léguyer qui m'avait dit, enfin, un des professeurs qui nous fait passer des examens. M'avait dit, enfin j'avais passé une petite scène où j'étais en colère et en fait j'étais montée dans les aigus. Et en fait il me dit oui non mais tu comprends quand tu es dans la colère il faut pas monter dans les aigus. J'ai dit ouais mais je fais comment? Et j'ai eu aucune réponse. Et là je me suis dit ouh il y a un souci. Je pense qu'il va falloir absolument que je fasse quelque chose quoi parce que je comprends pas ce que mon corps fait. On ne me dit pas comment faire pour ne pas partir dans les aigus. J'ai eu aussi François-Xavier Hoffmann, qui est un des bras droits en fait de Florent, et pareil, il m'avait fait une petite appréciation sur un examen que j'avais passé. Il m'avait dit enlève ton masque. Alors, pareil, j'avais été le voir après l'appréciation et je lui avais dit enlève ton masque, ça veut dire quoi? Parce que je suis quand même, enfin, je fais du théâtre, enfin, un masque, enfin, voilà. Et là, il m'a dit non, mais tu comprends, un comédien ne doit pas avoir de masque. Ouais. Et là, je me suis dit, faut que j'arrête les cours Florent, je pense.
Donc, tu avais entendu Charlotte aussi parler des cours Florent. Ils sont assez réputés parce que je t'avoue mon ignorance. J'ai entendu parler des cours Muller. Des cours.
Studio Muller, ouais.
Studio Muller.
Alors, ça, je connais pas, les Studio Muller.
Alors, les Studio Muller, en fait, c'était. En fait, j'ai mon professeur. Donc, j'ai fait une année au cours Florent. Et mon professeur, Sébastien Lipsard, avait été remplacé par Jocelyn Muller à l'époque. Et Jocelyn, en fait, avait toute une technique à l'acteur studio. Donc, tout ce qui est Stanislavski, Lee Strasberg, Grotowski. En fait, tous ces grands, Andrei Severin. Enfin, il avait fait l'école de la rue Blanche. Il avait fait énormément de trucs. Et lui nous a dit, voilà pourquoi tu pars dans l'aigu. Voilà pourquoi ton corps fait ça. Tous tes gestes sont parasites. Prends ton temps. Articule, respire, détends-toi. Enfin, voilà. Apprends ces choses-là. Apprends ton corps. Laisse-le parler. Il dit des choses lui aussi. Et le corps parle, effectivement. Et le corps a une mémoire. Et grâce à Jocelyn Muller, en fait, j'ai compris. J'ai ouvert mon troisième œil. J'arrive à me voir, en fait, de l'extérieur. Enfin, c'est très particulier hein, comme truc. Mais une fois qu'on a passé ce cap, il y a plus ce feeling où on ne sait pas où on va, où on ne sait pas ce qu'on fait, où, en fait, c'est un coup de génie. Voilà. Même ça arrive, parfois, on dit « Waouh !» Il y en a qui disent ouais, « Voilà, ce soir, j'ai été génial, j'ai fait un truc de dingue. » Mais ouais, mais c'est juste du feeling, quoi. Ils savent pas d'où ça vient. Alors qu'ils pourraient être comme ça tous les soirs. Parce que s'ils travaillent sur son corps, sur son texte, s'il y a un travail en amont, forcément, il sera bon tous les soirs.
Tu as appris à dompter un peu cette matière brute que tu avais au départ et t'as un peu expliqué.
Ah mais complètement, il m'a complètement expliqué.
Ouais. Et ça t'a aidé à te découvrir.
Ben, moi, et surtout à travailler. Parce que le théâtre, ça reste du travail. Ça reste vraiment, vraiment un travail super important.
Et oui,
quoi.
Du coup, c'est un engagement du corps, de la voix, de l'esprit. C'est pour ça que c'est important peut-être de prendre en compte tout ce qu'on est finalement. Et ce que t'as pas trouvé dans les cours Florent alors.
Ben non, parce que déjà, on était 32, il fallait jeter sur la scène. On avait des scènes classiques à passer. Par contre, si, j'ai appris énormément d'auteurs. Ça, par contre, au niveau échange d'auteurs contemporains, classiques, enfin, j'ai énormément lu. C'est l'année où j'ai le plus lu parce que tout le monde avait toujours un auteur, un machin à proposer.
Là, c'est là que tu as découvert Peter Brook.
C'était avec Jocelyn.
Avec Jocelyn.
Jocelyn, ouais, parce qu'en fait, justement, Peter Brook travaille sur l'espace vide et cet espace vide est extraordinaire pour un comédien parce que quand on voit, par exemple, la pièce que j'avais vue, Ta main dans la mienne, avec Michel Piccoli et Natacha Pira, voilà, là, on, Voilà, on a l'essence même du comédien. Le spectateur part dans l'imaginaire, il est dans son monde. Et le comédien a juste une canne qui devient une canne à pêche, qui devient un truc pour s'accrocher, qui devient un arbre, son chapeau, voilà. Enfin, toute chose, enfin, il y a très peu de choses sur scène. Il y a deux chaises et une canne et un chapeau. Et en fait, on voit la cerisée derrière, on voit tout. On voit absolument tout. On n'a pas besoin de décors à outrance, comme on peut voir certaines pièces où les mecs, ils se trimballent des camions entiers de meubles, de trucs, de machins. Ça sert à rien.
Peut-être qu'on va faire un petit retour, oui. Mais très court, parce que ça vient la prochaine pièce musicale que tu as choisie. Mais peut-être on va évoquer dans la séquence suivante ce retour en arrière. Peut-être que c'est un pléonasme de dire ça, mais je le souligne parce que on a parlé de Peter Brook, mais si on revisite, ou si tu peux évoquer dans les minutes qui vont suivre, Tchekhov, parce que Tchekhov t'a marqué. Tchekhov, oui. Et encore plus ancien, Carlo Goldoni, avec. Je ne sais pas si c'est Carlo Goldoni.
C'est Goldoni.
Guido Goldoni, oui.
Goldoni.
Qui est de la comédie de l'arte.
Ouais.
Et qui, par ailleurs, tu l'appliques beaucoup dans tes improvisations de ton cours. Donc, on écoute ton deuxième choix et on en parle de ça.
Ok, d'accord, très bien.
Était attribué, mais l'homme moderne est arrivé avec une caste, une armée, un clergé. La bataille fut rude et les eaux agitées, et malgré les efforts, l'île a capitulé. Depuis, quand le soleil est sombre, nombre d'entre nous résistent ou bien succombent. J'ai lutté contre vents et marées, résisté aux sirènes qui voulaient me noyer. Naufragé, isolé, seul et face au monde. Malgré tous ces efforts, je ne pourrais pas sauver le monde. Façonné par les cieux, un monde où l'on vénérait l'astre solaire pour ses bienfaits de Katmandou au cercle polaire. Mais beaucoup d'entre nous ont été happés par l'ombre, et à chaque lune claire augmente ce nombre. À chaque lune claire augmente les fléaux, et l'huile de la roche se verse dans les eaux. L'homme semble être un loup pour l'homme, et nous sommes comme pris dans un sauna de vapeur chloroforme. Si j'écris ces mots secs, je viens des pays secs, et que depuis des siècles il n'y a pas eu de plan hors sec. J'aurais aimé porter la lampe, la torche, le flambeau, et me changer le monde par le poids des mots. Apporter l'étincelle au plus grand nombre, mais quoi que je fasse, je ne pourrais pas sauver le monde. Imagine le monde, la modernité, avec de la volonté, on peut tout changer. Je suis à genoux sur le lac salé, le front sur le sol en train de méditer. Ce qui est à ma portée, c'est casser des portes et apporter de l'aide quand le fardeau est lourd à porter. Le faire sur portée musicale n'est pas assez. Il faudrait tout recommencer. L'osmose serait de changer les choses, de voir en anamorphose jusqu'à la métamorphose. D'écouter le cœur des anges comme les voix d'autres tombent, parce que j'entends la cri du cœur qui nous dit sauver le monde.
expliquer un petit pourquoi on ne peut pas sauver le monde.
Car la terre vit dans l'air de l'éther de l'éther. Car l'homme est minéral et son cœur est fait de pierre. Parce qu'Abel, Caïn, Fabrice, Sophie et Lucien s'allièrent avec l'ange qui exila le bien.
Pourquoi tu peux pas sauver le monde?
Parce que j'ai vu la nuit estomper la clarté et le monde devint pénombre, par fondu enchaîné. Quand il pleut, je vois plein d'espoir devenir plat, comme s'ils avaient pris le pli. Fiat lux, elle n'est plus.
Pourquoi tu peux pas sauver le monde?
Parce que je suis pas Superman et que ça va super mal et que Barbie et Ken sont devenus super mad. J'aimerais que tu fasses quelque chose. Je te le demande. Promets-moi, si tu le peux, s'il te plaît.
Alors en fait, j'ai choisi cette chanson parce que j'aimerais sauver le monde. Mais j'y sais en fait avec mes petites pièces de théâtre. Surtout celles que j'ai écrites pour enfants sur le développement durable, qui s'appelle Les vacances de Crâne Noir chez Pépé Poutou.
Ah oui, oui, on va en parler aussi. Et donc, pour revenir à l'auteur des... Non, pardon, avant on va arriver à Tchekhov.
D'accord,
oui.
Okay.
Et je parle de la musique que tu as choisie, donc MC Solar,
ouais.
Tu l'avais découvert très tôt aussi.
Oui, très, très
parce
jeune.
Parce qu'il est dans la scène depuis pas mal de temps, comme ouais. MC Solar.
Ben, quand j'étais ado, ouais, 14-15 ans...
Sauver le monde, là.
Non. Non, sauver le monde, c'était, je crois, Max 6.
C'est plus tard.
C'est plus, beaucoup plus tard, ouais.
Oui.
Mais, ouais.
C'est... Charlotte était curieuse de savoir comment s'est passée tes courses, n'est-ce pas, Charlotte? Je vais pas te poser une question, mais oui. C'est les cours à l'MJC, à ton association.
Eh ben, oui, parce que justement, tu parlais de tes cours qu'on t'a appris, où on travaillait sur le corps et tout ça. J'aimerais bien savoir comment tu l'as retranscrit dans tes propres cours à toi.
En fait, j'ai essayé de prendre exemple sur les professeurs que j'ai eus. Enfin, je parle de Jocelyn, de Thomas Germaine, Adrien Michaud, enfin toutes ces personnes qui, en fait, travaillaient de la même manière, qui voulaient être dans la simplicité. Et en fait, j'ai eu des ouvrages, j'ai lu des ouvrages de plein de gens, des essais, des voilà. Et en fait. J'ai essayé de piocher des exercices un peu à droite, à gauche. Et en fait, je crée mon cours comme ça. On a un petit quart d'heure d'échauffement physique, obligé, parce que histoire de casser un peu la journée et d'arriver vraiment en cours de théâtre. Donc du coup, il y a ce petit échauffement physique qui permet que le corps déjà soit en mouvement. Parce que si on passe la journée assis sur une chaise, voilà. Après, c'est compliqué de se mouvoir un peu. Et ensuite, on travaille sur les exercices. Donc, déjà, rien qu'à l'échauffement, j'arrive à voir un peu les gens que j'ai en face de moi. Et là, il y a des gens... Enfin, on est tous différents. Donc, on a tous des problèmes un peu physiques, un peu tordus, on est un peu machin. Donc, du coup, je vois où je peux aller avec eux, déjà, rien que par le physique. Et par les exercices, j'arrive à voir, en fait, les problèmes qu'ont mes élèves. S'ils ont des problèmes de timidité, d'anxiété... de comportement avec les autres, si c'est une pathologie ou une névrose, enfin comme la plupart d'entre nous. Et du coup, j'arrive à savoir où est-ce qu'on peut aller avec eux, quoi.
Et ils ont à peu près quel âge, du coup?
Ça commence à la MJC.
À la MJC de Montauban.
À la MJC de Montauban. C'est les cours avec les petits, donc à partir de 6 ans, 6-7 ans. Ensuite, j'ai les pré-ados. Toujours à la MJC, les adultes le mardi soir. Et en fait, tout le monde a ses petits problèmes, ses petits trucs. Et donc, grâce aux exercices, j'arrive à essayer de faire une cohésion de groupe.
Mais il faut trouver sa place ouais, aussi dans un groupe, soi-même.
Ouais.
Quand on vient dans un cours de théâtre, on travaille sur soi, mais aussi avec les autres.
Ah oui, complètement.
Donc, faut trouver sa place, ouais.
Et la plupart des gens ont peur, sont réticents de toucher l'autre, même de parler à l'autre. Juste le regard dans les yeux. C'est hyper difficile de regarder quelqu'un dans les yeux qu'on ne connaît pas. Donc, tout ça, on le travaille. On commence comme ça, petit à petit. On se regarde dans les yeux. Après, petit à petit, on vient à toucher l'autre. On lui serre la main. Voilà. Petit à petit, après, on part dans des improvisations. D'où la comédia dell'arte.
Tu utilises aussi pour l'improvisation, c'est marqué dans tes cours. Donc. Alors, comment tu utilises l'improvisation, Vanessa, en t'inspirant de la comédie de l'arte?
Alors, en fait, la comédie de l'arte, on travaille sur un canevas. L'improvisio, c'est le canevas. Donc, on écrit en fait une situation, en gros. Voilà, par exemple, un résumé de film ou de pièce ou n'importe quoi. Enfin, un petit résumé. On peut prendre ça, un petit résumé de film. Et après, en fait, on travaille sur le personnage. Donc, chacun est un personnage et va intervenir. Donc, on a ce petit canevas, ce petit résumé, en fait, de l'histoire. Tiens, il y a machin qui rentre, il y a truc qui sort, il fait tel truc, tel machin. Ensuite, il y a machin qui sort, truc bidule, machin. Et du coup, il n'y a pas de texte écrit. Ce sont les personnages, en fait, enfin, ce sont les acteurs, en fait, qui créent le dialogue. Mais il n'y a pas de dialogue, il y a juste les situations. Et ça, c'est super intéressant, parce que du coup, on peut se lâcher. Il y a un lâcher-prise. Les gens peuvent ensuite aller vers l'autre plus facilement, puisque c'est leur langage et c'est leur corps qui parle. Donc ensuite, ils sont beaucoup plus libres dès qu'il y a un texte ensuite écrit. Ils comprennent.
Mais ça vient de la comédie dell'arte, ce type de...
Le canevas, oui. D'accord. L'improvisio, okay. Oui. D'où improvisation, improvisio.
Donc Goldoni au 18e, je crois que c'est,
oui, c'est, ça, ouais, je
c'est crois, celui
ouais.
qui avait initié cette méthode.
Alors celui qui a initié ma méthode, c'est Thomas Germaine. C'est un prof que j'ai rencontré et qui fait que de la comédia d'ailleurs. Oui. Et c'est lui en fait qui
t'a initié à toi, ouais. Oui, mais en tant qu'histoire du théâtre, c'est ce qu'on oui, pourrait associer à Goldoni comme l'initiateur de ces canevas sur lesquels on peut improviser.
Oui.
Oui. On ne sait pas.
Oui,
oui.
Voilà. Oui.
Parce que tu voulais nous parler aussi, à part Goldoni, de Tchekhov.
Oui, Tchekhov. J'aime beaucoup les... Alors, Tchekhov, en fait, c'est... On dit toujours que c'est tragique ce qu'il écrit. Pas du tout. Ce sont des comédies, d'ailleurs. Tchekhov, c'est comédie. Et je fais travailler mes élèves surtout sur les pièces en un acte de Tchekhov, qui sont pas très connues, comme L'Ours, Le Jubilé, enfin, il a écrit plein de petites pièces en un acte qui sont géniales parce que ce sont vraiment des comédies, quoi. C'est vraiment très drôle et il y a vraiment des situations. Bon, c'est de l'époque de la Russie du 18e ou 17e, donc c'est très dur, c'est très paysan, enfin, la vie est très rude, on mange pas à sa faim, enfin, mais ça reste des comédies. Et l'amour est toujours très tragique, il y a toujours des histoires de dingue et c'est super intéressant, quoi.
Dans ton parcours, j'ai lu attentivement, bien sûr, mais je ne peux pas tout énumérer. J'ai vu que tu avais intervenu dans une pièce de théâtre qui s'appelle, ou le film, Cuisine et dépendance. On alors, parle c'est... bien du même film.
Alors, ce n'est pas un film, c'était la pièce de théâtre qu'on avait reprise.
Oui. Ouais. Vous l'avez reprise des...
Bakri Jaoui.
Bakri Jaoui.
Ouais.
Oui.
Et en fait, à cette époque-là, on était six amis, enfin six comédiens, et on faisait des projets. Donc, on avait fait des petits pilotes aussi pour la télé, qui n'ont pas été pris.
Tu as été vexé.
Voilà. Voilà, ça me vexe. Et du coup, on a monté Cuisine Dépendante justement avec Jocelyn Muller qui était le metteur en scène. Et j'ai pas eu la chance de jouer dedans parce que j'ai joué le rôle de l'assistante metteur en scène. C'est pas facile, hein, assistante metteur en scène. Hein. Entre les plannings, les machins, la nourriture à prévoir, c'est génial parce que du coup on s'aperçoit, si on est tout seul, on peut pas, quoi. S'il y a que les comédiens, les metteurs en scène, c'est impossible. Il faut qu'il y ait tout le monde autour, quoi.
Un assistant metteur en scène s'occupe de toute la gestion qu'il y a autour,
ouais,
de la scène.
Administratif, enfin, une horreur.
D'accord.
Une horreur. Je ferais pas ça tous les jours, hein.
Oui.
Et... c'est un métier.
Mais ce que tu fais tous les jours, quelque part, c'est t'occuper d'une association, Open Scène.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Parlons-nous un petit peu des Open Scène.
Alors, Open Scène, c'est une asso que j'ai créée ici, d'ailleurs, à Montauban. Parce qu'en fait, j'arrivais de Paris et, je me suis dit, tiens, pourquoi pas donner des cours de théâtre, ça peut être sympa. Et en fait, ils sont pas très nombreux. C'est une petite asso, en fait, où justement, j'essaie de faire un petit cocon où je peux, en fait, faire des projets assez intéressants avec mes élèves.
Oui, est-ce que cette association, il y a des liens avec d'autres associations de théâtre?
Non.
Parce que, non. Et, mais
pas
et
pour
toi,
l'instant.
En tant que comédienne, en tant qu'écriteur ou écrivaine des pièces, tu as confronté tes écrits à tes pères, par exemple? Tu n'as pas.
Oui, si, bien sûr.
Oui, oui. Ouais. Par exemple, quel autre théâtre ou quel autre acteur du théâtre tu as rencontré ici à Montauban? Parce que je vais te faire parler de Montauban, ou plutôt de la concurrence à Montauban.
La concurrence. En fait, quand je suis arrivée ici, je suis tombée sur le VO, enfin sur Maryse Bédaride, et qui m'a dit, écoute, on a une petite asso de théâtre, si tu veux, tu peux venir. Ok, donc je suis allée. Et en fait, bah, je les ai aidés un peu pour la mise en scène et tout. Et on a monté deux petites pièces qui s'appelaient Au cœur de la matière et Shopping, donc deux contemporains. Et en fait, ça s'est super bien passé, ça avait vachement bien marché. Et après, j'ai fait mon petit bonhomme de chemin. Je suis tombée sur l'embellie avec Madame Latu. Pareil, j'ai donné des cours là-bas, mais après c'est pas du tout mon univers, quoi. Donc le théâtre, enfin pour eux ça reste un texte appris et joué, quoi. Voilà. Donc faire du travail, c'est très compliqué. Enfin leur apprendre la technique, c'est compliqué. C'est pour ça que dans mon asso, en fait, j'aime bien parce que c'est un petit cocon vraiment où c'est des gens qui veulent vraiment travailler, qui ont confiance en moi et qui travaillent, quoi.
Donc voilà un clin d'œil à Charlotte qui veut refaire du théâtre, peut-être pendant.
Ben oui, j'y ai pensé en tout cas. J'y pense. Plus concrètement, je vais y penser.
Bien, bien. Et il y a une œuvre que tu as écrite et que j'aimerais me parler. On va commencer. Peut-être que je vais te couper dans quelques minutes parce qu'il faut passer ton troisième choix musical, bien sûr. Mais c'est les vacances des Gras Noir chez Pépé Poteau, il s'agit de deux personnages, et c'est des ragondins, non?
C'est ça.
Des rongeurs qui sont dans un canal, ça pourrait être le canal de Montauban, un canal de Midi ou la rivière, ça pourrait être placé n'importe quel endroit où il y a un cours d'eau. Et le Pépé apprend à son petit-fils à pêcher. Et là, se déroule un dialogue, que c'est ta pièce, non? Et on pourrait pas dire un huis clos, mais plutôt en pleine nature, non? Parce oui. que c'est une affirmation écologiste sur l'économie de l'eau, la manière de comment se laver les dents, comment économiser les robinets. Donc c'est assez représentatif de la préoccupation actuelle. Et que tu la dessine, tu la présentes avec cette pièce. Mais je vais laisser les soins de nous faire une petite synopsis de la pièce. Et voilà, je te donne la parole. Vas-y, si tu peux résumer cette pièce. Et après, on va te questionner, bien sûr.
D'accord. Alors, en fait, c'est une pièce que j'ai écrite parce que je me suis aperçue que dans les écoles, enfin, j'ai parlé avec beaucoup d'enfants, avec beaucoup de parents, avec des profs, des instituts. Et en fait, je me suis aperçue qu'à l'époque, il n'y avait pas grand-chose sur l'écologie et surtout sur le recyclage. Enfin, ça commençait juste, en fait. Je me suis dit, mince, il y a un truc à faire, quand même. J'ai construit une maison en paille, en bois et en paille. Donc, avec mon compagnon, on est touché quand même par l'écologie. On a une phytoépuration, on a des toilettes sèches. Enfin, voilà, on est vraiment dans un... On essaie de faire pousser nos légumes, machin. Donc, du coup, on est touché par ce qui se passe, en fait. Et il fallait que je fasse quelque chose, quoi. J'entendais beaucoup, oui, mais voilà. Et du coup, je me suis dit, pourquoi pas une pièce de théâtre pour enfants? Je savais pas du tout, hein. Je connaissais absolument pas. Enfin, j'étais vraiment dans le néant. Et en fait, cette pièce, elle est sortie en 15 minutes. Mais réellement. Enfin, je l'ai écrit en 15 minutes. Enfin, c'était assez, et même j'ai écrit des petites chansons. Alors que j'écris pas du tout de chansons, je suis pas du tout
qui accompagne la pièce, qui parce que je l'ai vu, oui.
Oui, qui accompagne la pièce.
C'est lui parce que je n'ai pas assisté, oui.
Et c'est Frédéric Bédé d'ailleurs qui a écrit la musique des petites chansons. Du coup, en fait, c'est un projet. Voilà. Du coup, j'ai monté ça en petit projet. J'avais une amie qui avait sa fille qui était instite à Gaillac d'Aveyron, donc un petit village perdu. Perdu dans l'Aveyron, et elle m'a dit, écoute, moi je veux bien faire ton projet. Parce qu'en fait, le projet, c'était deux comédiens arrivent, vous faites les décors avec du recyclage, du papier, du carton, du plastique. Vous faites votre petit décor parce qu'en fait, il y a une petite cheminée et donc les enfants font le décor et les comédiens viennent jouer.
Excusez-moi de te couper un petit peu. On est sur un sujet grave. Je pense que la musique qui va venir aussi va accompagner ces sentiments et on va les reprendre juste après.
D'accord, très bien. Alors en fait j'ai choisi du kabuki parce que en fait le théâtre japonais, surtout le théâtre no, qui est aussi du kabuki, m'a beaucoup inspirée. Enfin j'aime beaucoup cet art ancestral parce qu'on part sur des techniques. Enfin les acteurs en fait apprennent depuis l'âge de 5 ans chaque mouvement. Chaque mouvement est millimétré, doit être fait à la perfection. Ça je trouve ça extraordinaire.
Donc, pour donner une piste à nos auditeurs et veulent réécouter, donc vous pouvez taper Kabuki, c'est le nom générique de cette musique, c'est K-A-B-U-K-I. Et pour cette musique, pour cette chanson que tu as choisie, c'est l'ensemble nipponia. Et l'artiste, je pense qu'il s'appelle Museum Dojoji. Bien, nous revenons à ta pièce de théâtre.
Pour enfants?
Oui. Et pour adultes aussi, il me semble.
Oui,
parce que
bien sûr.
Tu dis pour enfants,
c'est
mais je l'ai lu. Mais je pense que les adultes ont encore plus besoin que les enfants, parce que les enfants sont assez sensibles, je trouve, actuellement, les enfants, les jeunes, assez mobilisés, assez ouverts. Tandis que les adultes, quand même, sont assez fossilisés pour avoir des toilettes sèches, pour avoir des maisons en paille, et même pour l'utilisation de la voiture. Moi, je viens en vélo ici, à la radio, même à pied. Tu es venu comment, Vanessa?
C'est-à-dire,
oui.
Je fais froid en ce moment. Je tombe très vite malade, alors. En voiture.
En voiture.
Voilà. Oui, c'est pas bien, mais...
Revenons donc à la pièce.
Ouais.
Et tu l'as déjà présentée à Montauban, cette pièce?
Alors, Montauban, oui, au Théâtre de l'Embellie, justement. Madame Latu m'a prêté sa salle pour un an à présentation. Et ça s'était très, très bien passé, d'ailleurs. À la fin, on avait fait un petit goûter avec une boutique bio, La Vie Claire, qui avait bien voulu venir avec leur petit gâteau, leur petit jus de fruits bio. Et ça s'était super bien passé. Enfin, les adultes en voulaient encore, d'ailleurs. Donc, tu as raison, c'est tout public. Et les enfants aussi ont été très sages. Enfin, c'était génial. C'est super bien passé.
Est-ce qu'il y a eu un prolongement? Est-ce que... C'est que j'ai peur avec ce genre de pièces qui sont militantes, qui défendent des causes qui concernent l'avenir, surtout. Et c'est qu'une fois qu'on l'a vu, allez, on tourne la page, on voit autre chose.
C'est ça.
C'est le danger, non? C'est-à-dire qu'on satisfait nos bonnes consciences et du coup, on continue à faire la même chose. C'est-à-dire à polluer encore.
C'est ça. Je pense qu'il faut vraiment... en fait, c'est pareil, il faut que j'écrive, je pense, une suite. Enfin, je suis en train d'écrire la suite comme, vous savez, un peu Martine à la plage, tout ça. Donc là, c'est Crâne Noir qui va aller...
Crâne Noir, c'est les noms du personnage, le petit-fils.
Le petit-fils, voilà. Oui. Qui va en fait aller voir papy à la montagne, parce qu'il y a aussi des problèmes écologiques au niveau des montagnes, des problèmes écologiques dans les campagnes. Ici, on le voit au bord des routes, il y a des détritus partout. Enfin, les exploitations sont énormes au niveau des champs. Enfin, les sols deviennent pauvres. Et ça, tout ça, on n'en parle pas. Enfin, partout, il y a des problèmes écologiques. Donc, Crâne Noir peut aller un peu partout.
Est-ce que ce travail individuel pourrait s'articuler aussi avec ensemble associatif sur la défense de l'environnement? Par exemple, il y a Paysages de France, il y a Fils des pubs ou les anti-pubs.
Oui.
Est-ce que tu es en contact avec eux pour aussi multiplier l'action?
En fait, cette pièce, c'était un projet pour les écoles. Donc, on devait partir dans les théâtres, justement, pour voir un peu comment ça se passait au niveau... parce qu'un théâtre, ça fonctionne avec des gens derrière. Voilà, s'il n'y a pas les techniciens, il n'y a pas de pièce. Donc ça. Ensuite, un studio d'enregistrement, parce qu'il y a des chansons, des musiciens. Donc voilà, les enfants devaient voir tout ça. Le problème, c'est que ça ne marche pas, parce que les enfants ne sont pas comédiens. Ce sont deux comédiens qui viennent jouer dans un décor que les enfants ont fait. Donc mon projet ne fonctionne pas à cause de ça. Je suis allée voir plein de directeurs d'école et tout le monde m'a dit « Mais non, c'est quoi votre projet? Les enfants ne jouent pas, donc il n'y a aucun lien pédagogique. » Alors qu'on parle d'écologie. Voilà. Donc c'est très compliqué. Ensuite, les assos, oui, je peux après essayer de prendre la pièce et de la faire travailler en dehors et la tourner en dehors des écoles. Voilà, que ce soit quelque chose de... J'ai pas encore fait le lien. Il faudrait si des associations m'écoutent et seraient intéressées, oui, pourquoi pas. Avec grand plaisir, au contraire.
Je m'adresse maintenant à la plus jeune de nous trois, qui est Charlotte, non? Puisqu'on parle de la jeunesse,
qui n'en
on parle.
Sait rien.
Ah, mais si,
c'est vrai,
mais
elle cache son jeu, peut-être.
Alors, Charlotte, cette jeunesse que tu vis, comment dans ta génération, dans ton entourage, comment tu ressens les discours combattants, militants pour l'écologie qu'il y a à Vanessa?
Moi, je me sens pas militante, mais je trouve bien d'en parler de toute façon. Après, ce qui m'embête un peu, c'est qu'on nous culpabilise toujours en disant vous polluez trop, alors que finalement, c'est pas forcément. Enfin, c'est quelque chose à prendre avec tous les acteurs. Enfin, on n'est pas seul. Et souvent, les gens qui sont touchés, ce sont des petites gens, on va dire des gens qui font, je sais pas, moi j'ai interviewé des moments, des gens qui font du jardinage dans les jardins familiaux. Je trouve ça super déjà de, puis ça crée aussi du lien social. C'est pas du bio, c'est imaginer de retrouver une vie un petit peu comme avant en étant juste conscient des choses. Voilà, je trouve que
une réponse.
Mais on part juste sur le respect. Chacun fait sa petite part et je pense que ce sera déjà énorme, quoi.
C'est un débat quand même qui pourrait se prolonger. Je regrette de ne pas pouvoir abonder dans la question. Et je vous remercie à tous, Vanessa, Charlotte et aussi Abdul à la technique. Et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Merci.